RFI 5h30 à Paris, 4h30 à Kinshasa.
Les mots en piste.
Un premier vote, mais pas de fumée blanche dans le ciel de Rome où le conclave a débuté hier pour désigner le prochain pape. Rome où sont également réunies de très nombreuses religieuses. Elles espèrent que le successeur de François marchera dans les pas de l'Argentin, lui qui a fortement contribué à leur donner plus de poids au sein de l'église catholique. Des frappes de drones ont-elles été directement lancées depuis l'étranger vers Port-Soudan, sous les bombes depuis le début de la semaine. C'est en tout cas ce que disent des responsables soudanais qui accusent les Émirats Arabes Unis avec qui les relations diplomatiques ont été coupées. Marteler les fiefs de l'opposition, la stratégie menée par le président Salva Kiir au Soudan du Sud, lui qui affirme toujours vouloir mettre en œuvre l'accord de paix de 2018. Nous sommes à Djouba dans ce journal, puis à Paris, qui dit merci Hakimi, le Marocain, auteur d'un nouveau but hier en demi-finale de LDC européenne et qui envoie le PSG en finale. La température a grimpé dans la capitale. Paul Kagame et le président rwandais a assisté à la rencontre. Le conclave se poursuit ce jeudi. C'est de la fumée de couleur noire qui a été aperçue hier soir dans le ciel de Rome. Les 133 cardinaux électeurs ne se sont donc pas mis d'accord sur le nom du successeur du défunt François. En parallèle, le congrès de l'Union internationale des supérieurs générales, composé de responsables religieuses, se réunissait également dans la capitale italienne. Le pontife argentin avait enclenché un virage important en nommant des femmes à des rôles importants. Son successeur va-t-il suivre cette voie? Envoyé spécial Nicolas Roca nous raconte ce conclave féminin.
Loin des regards des caméras et du faste d'une réunion sous le dôme de la chapelle Sixtine, près de 900 religieuses essentielles au fonctionnement de l'église catholique se sont réunies à l'hôtel Ergife à Rome. À l'image du conclave, elles viennent de près de 75 pays et notamment d'Afrique comme Sœur Immaculée, originaire de Goma en RDC.
Nous souhaiterions que le pape prochain marche encore dans les sillages du pape François, car nous avons senti en lui l'œuvre de l'Esprit Saint et que le pape prochain continue aussi dans ce même sens de reconnaître les femmes, qu'elles se sentent, qu'elles ont de la place et le rôle à jouer dans l'Église.
Le pape François a nommé des femmes à des postes clés, une à un dicaster, l'équivalent d'un ministère pour la Curie romaine, le gouvernement du Vatican.
Les femmes doivent avoir plus de pouvoir, elles doivent être impliquées dans les dicastères parce que sans les femmes, il n'y a pas d'église. Les femmes sont l'église.
Sœur Marie Trinita Sobinakas du Nigeria.
Je ne suis pas de celles qui disent que les femmes doivent être prêtres, mais nous devons avoir un rôle aussi dans le Vatican pour que nous puissions apporter notre contribution.
Les femmes ne représentaient que 19% de l'institution avant le pontificat de François. Désormais, elles tiennent plus d'un quart des postes. Nicolas Roca, Rome, RFI.
Un nouveau vote des cardinaux électeurs aura lieu ce matin. Trois autres suivront dans la journée si la fumée n'est toujours pas blanche. Le porte-parole du secrétaire général des Nations Unies parle d'une escalade majeure dans la guerre au Soudan. Après les attaques de drones qu'ont subi les habitants de Port-Soudan ces derniers jours, elle pourrait conduire à des victimes civiles à grande échelle et à une destruction encore plus grande d'infrastructures critiques, dit Stéphane Dujarric dans un communiqué. Hier à l'aube, c'est la base maritime Flamengo sur la mer Rouge qui a été visée par des frappes menées par les forces de soutien rapide. Il y a deux jours, et sans donner de raison directe, le Soudan a rompu ses relations diplomatiques avec les Émirats Arabes Unis. Mais des responsables ont finalement pointé directement du doigt Abu Dhabi d'avoir lancé des drones de fabrication chinoise depuis une base militaire à l'étranger. Explication Ouda Ibrahim.
C'est le ministre soudanais du pétrole et de l'énergie qui l'évoque dès mardi. Sur la chaîne Al Jazeera, il affirme que les drones qui ont frappé des lieux stratégiques à Port-Soudan venaient de l'étranger, du côté est par-dessus la mer Rouge et non pas de l'ouest du pays. Le même jour, le dirigeant militaire de la région de la mer Rouge, le général de marine Mahjoub Bouchra, devant des diplomates à Port-Soudan, affirme également que les données logistiques et techniques analysées démontrent clairement que les drones interceptés sont venus de l'étranger en survolant la mer Rouge. Dans ses propos rapportés par la presse soudanaise, il explique que le lancement est fait depuis une base maritime émiratie sur la mer Rouge, probablement au Somalie. L'Inde. Il indique par ailleurs que les FSR ne possèdent pas de capacité leur permettant de lancer des drones ou de mener des attaques très précises. La nature de l'attaque directe et distanciée visait à disperser les défenses aériennes, a-t-il fait savoir. Malgré les rapports de l'ONU, Abu Dhabi a toujours nié son implication aux côtés des FSR au Soudan.
Et j'ajoute que les Émirats arabes unis ont affirmé qu'ils ne reconnaissent pas la décision de l'autorité de Port-Soudan, siège provisoire du gouvernement soudanais, qui selon eux ne représente pas le gouvernement légitime du Soudan ni son peuple honorable, a indiqué sur X Afra Al-Ameli, la directrice de la communication au ministère des Affaires étrangères des Émirats. Le Soudan, on continue d'en parler ce matin, notre invitée culture est Hind Medeb, réalisatrice du film Soudan, souviens-toi, dans lequel elle documente l'effervescence révolutionnaire après le renversement du régime dictatorial d'Omar el-Béchir, un film sorti hier en France. Bombardements qui se poursuivent également dans le pays voisin, au Soudan du Sud, où l'armée, fidèle au président Salva Kiir, semble vouloir neutraliser les forces d'opposition. Des frappes sur les bastions, notamment à Old Fangak, samedi, dans le nord du pays, où un hôpital de l'ONG Médecins Sans Frontières a été ciblé. Puis le lendemain, à New Fangak, un peu plus au nord, où cette fois une bombe a atterri à 50 mètres d'une base d'ONG. Enfin, ces deux derniers jours, ce sont des éleveurs armés du comté de Mayom, à une centaine de kilomètres à l'ouest, qui ont été visés. Bilan, une dizaine de morts. RFI Djouba, Florence Mietto.
Pour le chercheur Daniel Aketch-Tiong de l'International Crisis Group, il semble clair que Salva Kiir souhaite démanteler plusieurs éléments du SPLM-IO, le parti de Riek Machar. Et tout cela sans que les garants de l'accord de paix de 2018 ne parviennent à endiguer cette stratégie. Pourtant, le gouvernement sud-soudanais affirme toujours souhaiter mettre en œuvre cet accord qui prévoit un partage précis du pouvoir. Mais force est de constater que nombre de postes alloués à l'opposition par le pacte sont aujourd'hui aux mains de fidèles du président. Dernier changement en date, pendant la visite de l'Union africaine ce lundi, des décrets présidentiels ont annoncé le limogeage de commissaires de comté d'opposition et leur remplacement par des membres du parti de Salva Kiir, le SPLM. En résidence surveillée depuis plus d'un mois, les bastions de Riek Machar subissent des attaques militaires un peu partout dans le pays et son parti est miné de divisions internes. En remplaçant Riek Machar à la tête du SPLM-IO, explique Daniel Aketch-Tiong, le président démantèle non seulement l'opposition, mais aussi l'accord de paix de 2018. Florence Mietto, Djouba, RFI.
Radio France Internationale, 6h37 à Antananarivo. Une affaire qui fait couler beaucoup d'encre à Madagascar et qui fait parler jusqu'au sommet de l'État. Il y a un peu moins d'un mois, un colonel soupçonné d'avoir déposé des cocktails Molotov dans la capitale a été interpellé avant de réussir à s'échapper deux jours plus tard de son centre de détention. Et samedi dernier, voilà qu'il réapparaît dans une vidéo très virulente dans laquelle il accuse notamment un homme d'affaires malgaches de corruption. Correspondance Atana de Guillaume Fabry.
La vidéo, tournée depuis un lieu inconnu, a été visionnée plusieurs centaines de milliers de fois. Face caméra, le colonel Rakoutou Mamonds décline une longue liste d'accusations. Notre pays, je le cite, est gouverné sous l'ombre de M. Mam Ravatoumang, qui ne fait que de la corruption et du trafic d'influence. Homme d'affaires sulfureux, ce dernier est un proche du président Dzhradzoel. Dans sa vidéo, le colonel dénonce entre autres des fraudes financières au sein de l'hôpital militaire d'Antananarivo, où il occupait jusqu'à récemment un poste de direction. Le ministère des Forces armées a aussitôt condamné, je cite, « des diffamations et des calomnies ». Ces accusations sont en revanche prises au sérieux par Transparency International Madagascar qui, dans un communiqué, demande aux autorités de mener immédiatement des enquêtes indépendantes, affirmant, je cite, que les soupçons évoqués reflètent les inquiétudes des citoyens à bien des égards et dans divers secteurs. L'organisation appelle également à des mesures urgentes pour protéger les lanceurs d'alerte. Sans revenir sur les accusations du colonel Rakoutou Mamonds, le président Dzhradzoel a lui déclaré avant-hier que son évasion deux semaines avant la vidéo était inacceptable, exigeant que cela ne se reproduise plus. Guillaume Fabry, Antananarivo, RFI.
En République démocratique du Congo, à présent, le gouvernement a annoncé le 2 mai dernier l'ouverture de 52 nouveaux blocs pétroliers dans le bassin du Congo. Un projet dénoncé par la coalition Notre Terre sans pétrole qui réunit 176 organisations nationales et internationales. Dans un communiqué, elle estime que la relance de projets d'exploration pétrolière dans une zone protégée de la cuvette centrale est à la fois incompréhensible et surtout intolérable, alors que la RDC dit chercher à se positionner comme un acteur majeur dans la lutte contre le dérèglement climatique. Igor Strauss.
Pour Passion Mwemba de l'ONG CORAP, un des membres de la coalition, le constat est simple.
Nous ne pouvons pas reprocher un État d'exploiter ses ressources naturelles, mais nous pouvons reprocher un État d'exploiter ses ressources naturelles en mettant à mal l'avenir de communautés qui dépendent essentiellement de ressources naturelles pour vivre.
Les organisations dénoncent les impacts de l'exploitation pétrolière sur la biodiversité, le climat et les populations locales. Mais c'est surtout le lieu qui interpelle, puisque la zone ciblée recoupe une grande partie du couloir vert Kivu-Kinshasa, une immense réserve forestière lancée par le président Tshisekedi en janvier dernier.
Pourquoi est-ce que un pays qui se veut solution aux problèmes climatiques peut également devenir celui qui fait la promotion des énergies fossiles?
Enfin, Patient Mwemba remet en cause les potentielles retombées économiques de l'exploitation pétrolière pour les populations.
Vous avez un exemple, c'est la ville de Mwanda, où Perenco exploite du pétrole depuis des années. Quel a été le développement que cette exploitation a amené dans le territoire de Mwanda? Aucun développement.
Les membres de la coalition Notre Terre sans Pétrole demandent donc l'arrêt immédiat de ce projet et réclament un moratoire complet sur l'exploitation pétrolière et gazière en République démocratique du Congo.
Igor Strauss du service environnement climat de RFI RDC. Encore ce matin, Denis Mukwege est devant le Parlement européen de Strasbourg. Hier mercredi, le prix Nobel de la paix 2018 venu évoquer le conflit dans l'est du pays. Une guerre négligée et oubliée selon lui par le monde occidental. L'est où de nombreux combats ont été répertoriés ces derniers jours. Vous retrouvez tous les détails sur RFI.fr. Et puis notre invité ce jeudi est Martin Fayoulou, co-signataire avec les opposants Joseph Kabila, Moïse Katumbi et Délice Sanga d'un appel à un grand dialogue national pour parvenir à un accord de paix. Alors que se poursuivent les tractations diplomatiques à Doha et à Washington, Martin Fayoulou au micro de Christophe Boisbouvier, vous entendrez un extrait de cet entretien dans une heure. Un sujet également abordé hier à Paris où se sont rencontrés les présidents rwandais et français. Selon les informations de RFI, Paul Kagame et Emmanuel Macron ont évoqué plusieurs sujets bilatéraux. Paul Kagame qui a ensuite été aperçu dans les tribunes du Parc des Princes où il a assisté à la qualification du Paris Saint-Germain en finale de la Ligue Européenne des Champions de Football. Victoire des Parisiens 2-1 après un succès 1-0 à l'aller. Explosion de joie dans la capitale française au coup de sifflet final. Notre reporter Baptiste Leduc s'est mêlé à la foule du Parc des Princes aux Champs-Élysées en passant par la Porte de Saint-Cloud. Ambiance.
On est des enfants du Paris Saint-Germain. On attend ça depuis des années. En fait, là, ce qui se passe, c'est toute la frustration qu'on a accumulée pendant des années qu'on est en train de relâcher. Et c'est notre seule fierté, c'est le PSG. Ce soir, Paris va brûler, mais dans le bon sens. On va fêter tout en gardant le respect, bien évidemment.
Merci Hakimi.
Merci Hakimi.
Merci Hakimi.
Merci Paris, on est en finale. Ouais, merci Paris.
Finale, monsieur, Paris en finale.
Mais est-ce que Paris va gagner la finale?
Mais bien sûr que oui, elle va la gagner, monsieur. Bien sûr que oui, il n'y a pas de doute à avoir là-dessus.
Paris gagne la finale.
Paris gagnera la finale.
Là, on arrive en finale et on va prendre la coupe cette année, c'est pour nous, les gars.
On a pris toutes les équipes de Première Ligue.
On a éliminé la Première Ligue.
Un rendez-vous en finale, les gars. On va la ramener à Paris. Voilà.
Voilà la joie des supporters parisiens. Après la victoire contre Arsenal hier, ils étaient au micro de Baptiste Leduc. Le Marocain Achraf Hakimi a été élu homme du match hier soir. Le Paris Saint-Germain qui affrontera l'Inter Milan le 31 mai prochain à Paris. Il est 5h44.
Afrique Matin sur RFI.
Et il nous reste un bon quart d'heure ensemble. Nous serons en Éthiopie où jamais autant de café n'avait été exporté ces derniers mois. Addis Abeba empile les records, mais les gérants de café ont du mal à suivre. Puis au Cameroun, pays au meilleur rendement cotonnier en Afrique, mais où la dernière campagne s'annonce un poil décevante. Et puis le journal des territoires français de l'océan Indien et l'éternel débat autour d'une meilleure protection des baleines face au tourisme. Avant cela, c'est notre reportage du jour. Merci d'être à l'écoute de la Radio du Monde. On vous en parle tout au long de cette journée de 8 mai sur RFI. Il y a 80 ans, ce même jour de 1945, la France et ses alliés fêtaient leur victoire sur l'Allemagne nazie. Un 8 mai 1945 chargé d'histoire. Également, de l'autre côté de la Méditerranée, où des manifestations indépendantistes ont eu lieu en Algérie. S'en sont suivies de lourdes répressions de la part de l'armée française et les villes de Sétif, Guelma ou Kerata dans l'est du pays sont restées villes martyrs aux milliers de morts. À l'occasion de la commémoration de ces massacres, un collectif de chercheurs et d'historiens spécialistes de l'Algérie et de la colonisation a lancé un appel à la reconnaissance de ces crimes. Ouda Ibrahim.
Selon les historiens de ce collectif, la France reste très en retard par rapport à la mémoire de ses crimes comparativement aux autres puissances coloniales. Il y a eu de reconnaissance partielle, avancent les historiens, comme pour l'assassinat des indépendantistes Larbi Boumendjel, Mahdi Belharbi et Maurice Audin. Mais il n'y a pas eu de reconnaissance pleine, entière et circonstanciée des crimes commis pendant cette période en Algérie. Pour l'historien Nils Anderson, le peuple français n'est pas prêt.
Je crois qu'il y a aujourd'hui une situation plus difficile qu'elle n'était en 1962, au moment de l'indépendance. L'indépendance de l'Algérie reste un traumatisme dans l'opinion publique française. On constate qu'il y a des ressentiments anti-algériens en France, pays colonisateur, et je pense que c'est le rôle des responsables politiques d'abord, non pas de faire de la politique politicienne en exacerbant les sentiments identitaires et religieux, mais d'avoir le courage de reconnaître le fait colonial, ce que cela signifie comme répression lors de la guerre d'Algérie. Et ça, c'est nullement un acte de contrition ou de repentance, mais c'est simplement un acte moral de vérité.
Selon les universitaires, la bataille pour la reconnaissance des massacres en Algérie demeure cependant nécessaire pour des relations paisibles franco-algériennes, mais surtout pour une réconciliation des mémoires. C'est ce qu'explique l'historien de la colonisation, Olivier Lacour-Grandmaison.
Assurément, une reconnaissance par les plus hautes autorités de l'État des massacres commis le 8 mai 1945 contribuerait à améliorer les relations diplomatiques entre la France et l'Algérie. Et il y a un autre volet. Il y a en France un nombre très important d'héritiers de l'immigration coloniale et post-coloniale qui sont français, mais qui ont des origines particulières, qui ont une histoire familiale parfois particulière en raison des conséquences de ces massacres. Cette histoire, globalement, demeure très peu enseignée dans les collèges et les lycées, et pareillement dans les universités, et qu'encore une fois, c'est perçu comme une discrimination mémorale et commémorielle pour les héritiers de l'immigration coloniale et post-coloniale.
Cet autre 8 mai et la répression massive des indépendantistes ont longtemps été occultés en France. Les massacres ont profondément marqué le peuple algérien et ont, selon les historiens, amorcé la guerre d'indépendance en Algérie.
Un reportage signé Ouda Ibrahim et à réécouter quand vous le souhaitez sur notre application RFI Pure Radio.
RFI, toute l'actualité, Nemo en piste.
L'actualité de ce jeudi 8 mai 2025 et le Pakistan prévient qu'il vengera, je cite, « les personnes tuées par les frappes aériennes indiennes ». L'Inde et le Pakistan ont échangé des tirs d'artillerie hier. Dans un premier temps, une série de missiles indiens s'était abattue au Pakistan. Les deux gouvernements communiquent sur le bilan humain. Islamabad fait état d'au moins 31 morts. New Delhi en évoque 12 côté indien. Emmanuel Macron plaide pour une levée progressive des sanctions économiques européennes visant la Syrie, mais à condition, dit le président, français, que le gouvernement de transition stabilise la situation dans le pays. Il a rencontré son chef de file, Ahmad al-Shara. C'était son premier déplacement en Europe depuis la chute du régime de Bachar al-Assad en décembre. La réserve fédérale américaine, la Fed, maintient ses taux inchangés. Décision prise hier à l'unanimité. La Fed se dit dans l'incapacité de prévoir où va l'économie américaine et ce notamment compte tenu des nouveaux droits de douane. Et puis en France, le Conseil constitutionnel déclare conforme à la Constitution, la restriction du droit du sol à Mayotte. Décision rendue publique hier soir, il avait été saisi par des parlementaires de gauche après le vote de la loi qui conditionne l'accès à la nationalité française à la présence en France des deux parents en situation régulière depuis un an au minimum avant la naissance de l'enfant. Vous vous réveillez peut-être avec ou encore vous accompagne-t-il pour terminer le repas allongé avec du lait en dosette. On parle ce matin du café et celui que vous dégustez pourrait bien être éthiopien. Là-bas, les chiffres de l'export battent des records. Sur les 9 derniers mois, Addis Abeba a enregistré 1,5 milliard de dollars de revenus, notamment grâce à l'explosion du cours mondial de l'Arabica. Les autorités s'en réjouissent et s'en félicitent, certes, mais les gérants de coffee shop, eux, sont mis à l'épreuve dans un pays où le café est une institution. L'Afrique Echo avec Marlène Panara.
Il est 10h et comme tous les matins, Meskil, tablier mauve autour de la taille, ouvre les portes de son local et allume la radio. Le café est prêt à accueillir les clients.
Mon café s'appelle Nabek Coffee Shop. Cela fait un peu plus de deux mois maintenant que je l'ai ouvert.
Dans son nouveau métier, cette ex-hôtesse d'accueil doit constamment s'adapter à la fluctuation des prix du café qu'elle se procure dans la région de Jima et dans un marché d'Addis Abeba.
Depuis cette année, les prix du café grimpent et descendent tout le temps, mais il y a deux ou trois mois, ils ont vraiment beaucoup augmenté. À Jima, le kilo coûte 650 birres. À Addis Abeba, au Chola Market, c'est entre 900 et 1000 birres. Avant, cela coûtait entre 600 et 700 birres à Addis et à Jima, 450 birres.
La hausse des prix de l'Arabica, variété reine en Éthiopie, explique en partie cette augmentation. Le 25 novembre 2024, son prix de référence est monté à plus de 6,5 dollars le kilo, son plus haut niveau depuis 1997. Kirou Belsioum, chef des opérations au sein de la marque emblématique de café Tomoka, lie cette hausse à une pénurie globale de café.
Il y a des problèmes de production interne, à l'échelle mondiale aussi.
À cause des sécheresses qui ont touché le Brésil et le Vietnam, premiers producteurs mondiaux, la demande a dépassé l'offre. En Éthiopie, la dévaluation du birr appliquée fin juillet 2024 pour répondre aux exigences du FMI a également fait grimper les prix. Cette situation affecte autant les petits commerçants comme Meskil que les gros revendeurs comme Tomoka.
Cette année, c'est du jamais vu dans notre histoire. Le kilo, c'était à 300 jusqu'à 500 birres le kilo. Et maintenant, ça triplé.
Pour encaisser les chocs, l'entreprise n'a d'autre choix que d'augmenter le prix de la tasse.
On a essayé d'absorber ces coûts, mais on était forcé de réviser. Au début de l'année, c'était à 85 birres. Actuellement, là, c'est à 125.
Au Nabek Coffee Shop aussi, le prix de la tasse a augmenté, comme le détaille Zola, client quotidien de Meskil.
Aujourd'hui, c'est devenu très cher. La tasse est à 30 birres en Éthiopie.
L'augmentation des prix du café est très mal accueillie en Éthiopie, car dans ce pays, le café fait partie intégrante du quotidien, explique Zola.
Je suis accro au café et à la cérémonie du café. C'est un pan important de la culture et de la vie sociale.
L'Éthiopie est le premier producteur de café en Afrique et la moitié de ses récoltes est consommée localement. Marlène Panara, Addis Abeba, RFI.
Un sujet à retrouver sur notre application RFI Pure Radio et sur notre site internet rfi.fr. C'était la semaine dernière dans le nord du Cameroun, les festivités des 20 ans de l'Association des producteurs de coton africain à Garou précisément, bassin cotonnier du pays. Et Charlotte Cossé était sur place. Bonjour Charlotte.
Bonjour.
Un lieu qui n'a pas été choisi au hasard puisque le Cameroun est le pays qui présente les meilleurs rendements sur le continent.
Effectivement, les rendements du coton camerounais se situent autour de 1500 kg par hectare lorsqu'il est de moins de 850 au Burkina Faso ou au Togo par exemple. De bons résultats qui s'expliquent selon les acteurs sur place par le suivi des itinéraires techniques, c'est-à-dire le respect d'un cahier des charges rigoureux, par exemple la bonne préparation du sol, le respect des dates de semis ou encore l'usage des bonnes quantités d'engrais. Pour en arriver là, il a fallu former les cotonculteurs et les accompagner. La qualité des semences est aussi mise en avant. Et autre spécificité au Cameroun, la sélection des producteurs. Un cultivateur qui ne parvient pas à un minimum de production est exclu du système.
Mais malgré ces bons résultats, Charlotte, la dernière campagne s'annonce plutôt décevante.
Oui, la campagne 2023-2024 a permis au Cameroun de se hisser au troisième rang des producteurs du continent avec près de 400 000 tonnes de coton graines récoltées. Mais la dernière campagne est en train de se terminer et les prévisions mettent en avant une baisse significative de cette production. Elle devrait péniblement atteindre les 290 000 tonnes. Alors plusieurs facteurs l'expliquent. Des phénomènes météo extrêmes avec une partie des récoltes inondées et à d'autres endroits une saison sèche qui s'est prolongée. Autre problématique majeure, les attaques de jacides, ces ravageurs déjà connus en Afrique de l'Ouest, et des délais importants pour l'obtention des agréments des produits phytosanitaires adaptés, ce qui a retardé le traitement du coton.
Alors, autre spécificité du pays, sur le continent, c'est le seul à ne pas subventionner les engrais. Charlotte, est-ce que c'est plutôt une bonne chose ?
Alors à première vue, oui, cela tend à laisser penser que la filière a su être suffisamment efficace et rentable pour ne pas avoir besoin de soutien. Cependant, la réalité est un peu plus complexe. Un fonds de roulement permet d'avancer les engrais aux cotonculteurs, un coût soustrait ensuite aux producteurs lors de la vente du coton après récolte. En réalité, donc, beaucoup de petits producteurs vivent à crédit et cultivent pour rembourser les engrais. Des dettes d'autant plus importantes que les prix des intrants ont grimpé en flèche depuis le début de la guerre en Ukraine. À Garoua, l'ensemble des acteurs de la filière espère un geste de la part des autorités qui, malgré le recul attendu cette année, mise à l'horizon 2030 sur une production de 600 000 tonnes.
Merci Charlotte Cossé. 5h55, l'heure du journal des territoires français de l'océan Indien. À la une ce jeudi, la Réunion et cet arrêt préfectoral. Une édition présentée par Benoît Ferrand. Bonjour Benoît.
Bonjour. L'activité consistant à s'approcher des cétacés est en plein essor dans l'océan Indien. C'est bon pour le tourisme, un peu moins sans doute pour les animaux. À tel point d'ailleurs qu'il faudrait durcir encore un peu plus les contraintes. C'est en tout cas l'avis du vice-président de la filière mère du syndicat des professionnels d'activités de loisirs de La Réunion. Il s'appelle Emmanuel Roté et il est au micro d'Ophélie Maraval.
On a travaillé avec les professionnels qui transportent les passagers pour voir les baleines et les personnes qui organisent les randonnées subaquatiques, donc les centres de plongée. Et on va beaucoup plus loin que ce qui est proposé. Il y a des restrictions qui ne correspondent pas forcément à un objectif qui est de préserver les baleines. Et là, dans l'arrêté qui vient de sortir, on ne va pas pouvoir les préserver correctement. Il a été diminué le nombre de personnes qui peuvent faire une randonnée subaquatique. C'est pas ça qui va faire diminuer la pression sur les baleines. On a été plus loin sur les propositions en disant qu'il fallait limiter le nombre de rotations par structure et non pas par bateau. On n'a pas été entendu à ce niveau-là. Aujourd'hui, il y a une diminution de l'horaire pour les randonnées subaquatiques qui est de 9h à 13h, mais il n'y a pas de limitation quant au nombre de bateaux. Donc en fait, on va multiplier le nombre de personnes sur l'eau. Et là, pour le moment, ce n'est pas une démarche qui est constructive.
Ne pas se retrouver à la rue lorsqu'on a perdu son toit, ce n'est pas si simple. Cela peut même parfois tourner à la mission impossible. Sauf lorsqu'on se voit proposer par sa mairie un hébergement d'urgence. Mais encore faut-il que l'hébergement en question existe. Et c'est pourquoi de plus en plus de municipalités et d'intercommunalités se lancent purement et simplement dans la construction de maisons temporaires. Il y en aura bientôt 11 à Saint-Louis, dans le sud-ouest de La Réunion. Reportage Suzette Emma.
Il y a une semaine, suite à un incendie, un couple et ses quatre enfants se sont retrouvés à la rue. Le CCAS de Saint-Louis vient de les reloger dans une de ses résidences temporaires. Une situation qui illustre bien le besoin de ces hébergements d'urgence.
Ça peut être aussi à la suite d'intempéries qui ont causé des inondations, des accidents de la vie, des femmes victimes de violences intrafamiliales.
Pour accueillir ces familles soudainement sans toit, deux appartements seront livrés dans 6 mois rue des Fiagues à la Rivière et deux autres à Palissade, à Saint-Louis. Juliana Mdouaouma, maire de la ville.
Donc on a porté ce projet de solidarité pour effectivement mieux outiller notre territoire en solution d'hébergement quand des familles se retrouvent du jour au lendemain sans hébergement. Avec ce projet, il va y avoir 11 logements. Donc c'est déjà nettement mieux pour gérer avec humanité toutes ces situations compliquées.
D'autant qu'en matière d'habitat, Saint-Louis vit une situation tendue avec une liste d'attente de 1950 demandes de logement.
En bref, l'épidémie de chikungunya se maintient à un niveau élevé à La Réunion. Du 28 avril au 4 mai dernier, le nombre de consultations aux urgences et en médecine de ville est certes en baisse, mais le bilan humain, lui, s'est alourdi. 3 nouveaux décès liés au chic ont été recensés. 28 autres sont en cours d'investigation. En ce qui concerne les décès, ils ont concerné des personnes âgées de 71 à 95 ans, mais des investigations sont en cours pour 28 autres décès, dont celui d'un bébé, a signalé encore et enfin ce chiffre. En métropole, cette fois-ci, 766 cas de chikungunya identifiés depuis le 1er janvier dernier, dont 97% en provenance de La Réunion. Fin de cette édition. Bonne journée.
Bonne journée et merci Benoît Ferrand pour ce journal des territoires français de l'océan Indien. C'est ainsi que se referme cette demi-heure. Merci à Thierry Le Saint à la réalisation, à Vincent Dublange à la rédaction en chef. Un prochain journal sur RFI, c'est dans un peu plus de 30 secondes. Ce sera avec Jeanne Bartoli. Il sera 6h à Paris, 4h en temps universel.
Littérature sans frontières, Catherine Fruchon-Toussaint.
À l'heure des 80 ans de la Libération, je vous propose de découvrir comment deux artistes françaises ont résisté pendant l'occupation sur l'île de Jersey en déstabilisant les occupants allemands avec des actions inédites. Une histoire vraie qui a inspiré Emmanuel Hutin pour son roman Les Francs-Tireuses.
Littérature sans frontières, Catherine Fruchon-Toussaint.
Vendredi, à partir de 13h30 TU.
RFI.